Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui, le député Ralopka et son ancien assistant s'accusent mutuellement de corruption. Présidentielle 2013, le candidat Vladimir Drouhi s'apprête à quitter ses fonctions dans le secteur privé. Un référendum à Pölzheim pour décider de la construction ou non d'un gigantesque centre commercial. Les plaintes pour corruption déposées par le député Otto Ralupka du parti Affaires Publiques et par son ancien assistant l'un contre l'autre n'ont pas abouti. Le tribunal les a rejetées et les deux hommes consultent désormais leurs avocats respectifs pour savoir quelle suite ils donneront à cette affaire. Otto Ralupka est accusé d'avoir demandé à son ancien associé, Vratislav Vajajka, de lui verser la moitié de son salaire, ce qui correspond à environ 25 000 courants tchèques, pour pouvoir continuer à travailler à ses côtés. Le député, dont l'immunité parlementaire a été levée début juin, est poursuivi pour avoir réclamé des pots de vin et son assistant pour lui en avoir versé. Tous les deux clament leurs innocences, mais s'accusent mutuellement de corruption. Par ailleurs, la police les poursuit pour une autre affaire de corruption. Le bilan du commerce extérieur de la République tchèque en juin a affiché un solde positif de 29,4 milliards de couronnes, soit environ 1,18 milliard d'euros, soit un résultat supérieur de 15,8 milliards de couronnes à celui enregistré en juin 2011. Les chiffres ont été publiés ce lundi par l'Office tchèque des statistiques. Le volume des exportations a progressé de 5,6%, tandis que les importations ont augmenté de 0,9%. Les exportations tchèques dépendent en grande partie de l'état de l'économie de la zone euro, et plus particulièrement de l'Allemagne voisine. Par ailleurs, toujours selon l'Office tchèque des statistiques, la production industrielle en République tchèque a baissé en juin de 2,2% par rapport à la même période en 2011. Vladimir Drouhi, candidat à l'élection présidentielle de 2013, laquelle se déroulera pour la première fois au suffrage universel, a annoncé ce lundi qu'il quitterait ses fonctions au sein de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs vers la fin octobre. Il renonce également à toutes ses fonctions dans le secteur privé. Ancien membre du parti libéral Alliance Civile Démocratique, Vladimir Drouhi a joué un rôle important dans les grandes privatisations des années 1990 quand il était ministre de l'Industrie et du Commerce. Le président de la République, Václav Klaus, apparaît sur la liste des plus importants orateurs proposés pour des séminaires ou des conférences par l'agence internet London Speaker Bureau. L'agence a refusé d'indiquer les honoraires perçus par le chef de l'État. Actualnier.cz se demande si Václav Klaus ne mélange pas les genres en utilisant la fonction présidentielle comme un tremplin pour des activités à caractère privé. Le porte-parole du bureau présidentiel s'est refusé à tout commentaire. Les citoyens mobilisés depuis 2010 contre la construction d'un grand complexe commercial en plein centre-ville de Pölzheim, en Bohême de l'Ouest, ont réuni assez de signatures pour organiser un référendum sur le sujet. Ils ont déposé ce lundi à la mairie un registre de 15 768 signatures d'habitants de la ville, soit 1300 de plus que le nombre légal nécessaire à la tenue d'un référendum local. La maison Corsa Amalitska, si elle voit le jour, sera un bâtiment multifonction avec des bureaux, des bars, des magasins ou encore des appartements. Son coût est estimé à près de 100 millions d'euros. Les militants opposés à ce projet considèrent que la construction d'un tel édifice près des musées et des bâtiments historiques dénaturerait le centre-ville. Le référendum pourrait se tenir à l'automne, les 12 et 13 octobre prochains, en même temps que les élections régionales. Un musée du chocolat et de la pâte d'amande ouvre le 5 septembre prochain dans la ville de Tabor, en Bohême du Sud. Les visiteurs pourront notamment découvrir une réplique de la ville historique d'environ 2 mètres de large, tout en pâte d'amande et en chocolat. L'alpiniste tchèque Susanna Hofmanova est très probablement décédée ces derniers jours lors de l'expédition sur les pentes du Broad Peak, 12e plus haut sommet du monde avec 8047 mètres. Selon certaines informations, elle aurait été emportée par une avalanche lors de la descente après avoir atteint le sommet le 31 juillet. Un peu de sport pour conclure avec les Jeux Olympiques de Londres. Andrea Hravatchkova et Lucie Hradecka ont été battues par la paire américaine composée des sœurs Serena et Venus Williams en 2-7, 4-6, 4-6 en finale du tournoi olympique du double dames de tennis. En basketball, large vainqueur de l'Angola 82 à 47 dimanche midi à Londres, l'équipe féminine de République tchèque de basketball s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique. Quatrième de leur groupe, les Tchèques affronteront mardi la France. On finit avec la météo. Mardi, jour de la fête de tous les Ladas, le temps devrait être ensoleillé avec quelques épisodes nuageux et de possibles averses par endroits, notamment en montagne et dans l'est du pays. Les températures sont plus douces, de 22 degrés à 26 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme avec Anna Kubishta.
faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine d'actualité. Merci à Pierre pour son bulletin d'information. À Ostrava, en Moravie du Nord, les habitants d'un ghetto sont sous le coup d'une expulsion pour des raisons sanitaires. Issus de la minorité rome, un bon nombre d'entre eux refusent de partir. Direction ensuite le musée Kampa à Prague, qui accueille jusqu'à la fin septembre une exposition de gravures de Goya. Et puis on passera au sport, notamment au JO en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. C'est un bras de fer qui oppose depuis samedi la municipalité d'Ostrava en Moravie du Nord et les habitants d'un ghetto rom d'un quartier de la ville. Appelés vendredi à quitter les lieux dès le lendemain pour des raisons sanitaires, certains habitants refusent d'abandonner leur logement. Vendredi, des fonctionnaires publics accompagnés de policiers ont fait le tour des logements du ghetto de Prednadraji à Ostrava pour donner aux habitants issus de la minorité rom les avis d'expulsion des bâtiments. Une décision prise par la municipalité en raison des conditions sanitaires dans lesquelles vivent quelques 44 familles. Canalisation défectueuse, problème d'évacuation des eaux d'égout, moisissures dues à l'humidité de certains logements inondés. Les problèmes sont nombreux dans ces bâtiments, dont le propriétaire Oldrich Rostochil évoque le mauvais état.
Je n'ai pas pu faire réparer les canalisations tout seul. Quand j'ai demandé un devis à une société locale, on m'a répondu que cela coûterait 20 millions de couronnes, ce qui n'est pas du tout dans mes moyens financiers. Je ne sais pas comment je pourrais intervenir sur des canalisations qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Les autorités locales ne m'ont pas aidé une seule fois et en plus elles font de la désinformation dans les médias en affirmant que les canalisations sont sujettes à un conflit de propriété alors que ce n'est pas vrai.
En attendant, cela fait des mois que les habitants de ce que l'on ne peut nommer autrement que ghetto vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. La municipalité, elle, rejette la faute à la fois sur les fonctionnaires d'État responsables et sur le propriétaire des immeubles. Et devant le fait accompli, évoque le relogement de certains habitants. Tomáš Kužec, maire adjoint d'un district d'Ostrava.
Nous avons prévu à temps et à l'avance de reloger toutes les familles de ce ghetto dans des centres d'hébergement privés.
Les autorités locales avaient donné aux familles jusqu'à samedi minuit pour faire leurs bagages, mais quelques 140 personnes sont restées dans le ghetto de Prednadraji, arguant qu'elles étaient chez elles et payaient leur loyer, quand bien même nombre d'entre elles n'ont pas de contrat de location en bonne et due forme. Pendant le week-end, les habitants ont même mis la main à la pâte et décidé de réparer certains des problèmes pointés du doigt dans l'avis d'expulsion. Pour Kumar Viswanathan, président de l'association Vivre en commun, Vzayemnes Ojeti, les pouvoirs publics, tant au niveau de l'État que de la municipalité, ont clairement failli à leur devoir. Selon lui, le relogement ne résout rien.
Ce n'est pas une bonne solution. Évidemment, une partie des habitants sont prêts à partir parce que leur vie n'est qu'une suite de relogements en centre d'hébergement. Ils voient cela comme un nouveau déménagement auquel ils sont habitués, mais il y a plusieurs familles de Roms tchèques qui vivent ici depuis très longtemps, parfois 20 ou même 25 ans. Et ces gens ne veulent pas abandonner leur maison. Ils disent qu'ils ne partiront pas. On leur a dit que l'électricité et le gaz seraient coupés mardi. Ils n'ont plus d'eau courante depuis vendredi, mais nous leur avons installé une citerne.
Chargée des droits de l'homme au sein du gouvernement, Monika Šimunková regrette que la situation du ghetto de Prednadraji soit allée si loin.
Franchement, je pense que cela n'était pas nécessaire. Cette situation montre bien que si le problème de l'exclusion sociale en République tchèque n'est pas géré systématiquement dans son ensemble, on se retrouve dans des cas comme celui-ci. C'est une des pires variantes où des familles vont se retrouver dans une situation précaire dont ils vont difficilement se sortir s'ils se retrouvent en centre d'hébergement. Il est toujours compliqué de trouver le responsable, mais d'après mes informations, je pense qu'une grande partie de la responsabilité revient à la mairie d'Ostrava. Le problème principal, ce sont les canalisations. La mairie était au courant depuis longtemps, et en dépit de ses arguments sur les questions de propriété de celle-ci, elle aurait dû réagir aussi vite que pour l'avis d'expulsion qui a été expédié.
Měl zasáhnout i takto rychle. Un an après les émeutes de Chluknov, dans le nord de la République tchèque, cette nouvelle affaire montre bien que les localités défavorisées et les zones d'exclusion sociale restent un problème persistant dans le pays. Ce lundi après-midi, des fonctionnaires sont à nouveau venus contrôler les habitants du ghetto pour les mettre en garde qu'ils restaient à leurs risques et périls. Toute décision d'intervention éventuelle a été remise à plus tard dans la semaine. L'exposition temporaire Les Visions de Goya, qui présente des gravures de Francisco de Goya, se tient actuellement au musée Campa à Prague. Ses œuvres sont caractéristiques de deux thématiques chères à Goya. Le fantastique, allant jusqu'à la caricature d'une part, et la violence, représentée de manière réaliste d'autre part. Ariane Batutovan a vu cette exposition.
L'exposition consacrée au célèbre peintre et graveur espagnol de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Francisco de Goya, présente un large échantillon de quatre grands ensembles de gravures qui ont été pour la plupart découvertes après sa mort. Elles ont été prêtées par la Galerie nationale de Prague au musée privé Campa en échange des peintures et des dessins de František Kupka. La popularité de Goya en tant que peintre était déjà bonne lorsqu'il choisit une nouvelle pratique artistique, la gravure. Il utilise l'eau-forte et l'aquatinte auxquelles il donne ses lettres de noblesse. Ces techniques reposent essentiellement sur la maîtrise et la finesse de l'artiste artisan et le rendu du clair-obscur. Thomas Martin, licencié en histoire de l'estampe à l'école du Louvre, nous en dit plus.
Dans l'histoire de la gravure, alors Goya est un artiste charnière, tant dans son œuvre de peintre que dans son œuvre gravée. Il est un artiste qui intervient au moment de l'émergence d'un certain nombre de techniques, que ce soit la lithographie à la fin du XVIIIe siècle, que ce soit l'arrivée de l'aquatinque dans la deuxième moitié de ce même XVIIIe siècle. Goya se place en précurseur et parmi les premières personnes à expérimenter ces médiums.
En 1792, Goya travaille à la série des Caprices, caricaturant le gouvernement, l'aristocratie et les institutions religieuses de l'époque, alors qu'il est lui-même exclu de la vue en société du fait d'une maladie qui lui fait perdre en grande partie l'ouïe et la vue. Publié et immédiatement censuré en 1799, les planches sont confiées par Goya au roi d'Espagne pour échapper aux foudres de l'Inquisition. Les caprices sont à rapprocher des proverbes présentés dans la salle suivante et qui représentent des scènes grotesques et effrayantes peuplées de chimères et de personnages au visage torturé. Les deux dernières salles sont quant à elles consacrées aux gravures réalistes de Goya, dont le point commun est la représentation de la violence, qu'elle soit celle de la barbarie humaine dans les désastres de la guerre ou de l'animalité sauvage dans le cycle consacré à la tauromachie. Les désastres de la guerre constituent en effet un témoignage de l'atrocité des guerres napoléoniennes en Espagne, dont l'œuvre équivalente représentant une fusillade et la toile Tresse de Mayo, exposée au musée du Prado à Madrid. Thomas Martin nous présente les quatre cycles de Goya apparaissant dans l'exposition qui lui est consacrée.
Les quatre cycles qui sont présentés dans l'exposition, qui sont les quatre cycles principaux hein, de Goya, à savoir les caprices, tauromachie, proverbes et misère de la guerre, ont cela d'important qui sont des jalons essentiels dans l'histoire de la gravure et ils vont permettre à Goya d'accéder au titre de maître de l'aquatinte en tant à la fois que précurseur mais aussi comme artiste majeur dans la recherche des rendus, au même titre que Rembrandt pouvait être le grand maître de l'eau forte et Dürer celui du burin. De ces séries-là, on retiendra majoritairement les caprices et les misères de la guerre, de par leur importance aussi d'influence sur les artistes qui suivent. Les caprices auront une influence majeure en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, autour de personnes notamment comme Édouard Manet, qui les reprendra directement dans ses gravures, qui reprendra aussi la technique de l'aquatinte, qui est un élément extrêmement important dans son travail. Et les misères de la guerre ont une importance aussi historique. C'est aussi avec Goya et dans ces séries-là que l'on voit apparaître vraiment des éléments dits modernes. C'est une des premières occurrences d'un artiste qui va se réapproprier un médium qui va vraiment l'emmener quelque part autour de thématiques qui lui sont propres. Les caprices sont une critique de la société qui n'appartiennent qu'à Goya. Et quand on est peintre à la cour des Bourbons d'Espagne, ce n'est pas un acte anodin que de se réapproprier ce médium pour servir une idée qui lui est propre.
L'exposition Les Visions de Goya se termine le 30 septembre. Pour plus d'informations, reportez-vous au site internet du musée, le www.museumcampa.com. On passe à la deuxième partie de notre émission. Comme chaque lundi, place maintenant à l'actualité sportive sur Radio Prague, alors que les Jeux Olympiques, entrés dans leur seconde semaine, continuent de battre leur plein à Londres. Et s'ils sont longtemps restés très discrets, les athlètes tchèques ont néanmoins décroché plusieurs médailles en fin de semaine dernière, pour un bilan à mi-jeu, somme toute plutôt satisfaisant, et malgré quelques déceptions inévitables, relativement conformes aux attentes. Passage en revue de la première semaine écoulée et des médailles tchèques avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Cinq médailles, dont une d'or, tel était le bilan tchèque dimanche soir, 9 jours après l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres et le temps fort qu'a constitué la victoire d'Usain Bolt sur 100 mètres. Après quelques déceptions en début de semaine dernière, il aura toutefois fallu attendre mercredi et l'argent de Vavřinec Radilek en kayak monoplace pour voir le compteur tchèque enfin se débloquer. Depuis, 4 autres breloques sont donc venues s'ajouter et la plus belle est bien entendu celle de Miroslava Knapkova, vainqueur samedi de la finale du skiff féminin, dernière épreuve, d'aviron de ces Jeux. Grande favorite et en tête dès le départ, Miroslava Knapkova possédait 7 secondes d'avance aux 3/4 du parcours, mais à l'arrivée et au bout des 2 km, ce n'est plus que de 3 secondes que la championne du monde en titre devançait la Danoise Fi Ubdi Eriksen, suivie de l'Australienne Kim Crow. Partie très vite, la rameuse tchèque concédait avoir ramé dans la seconde partie de la régate pour rester devant ses adversaires. On l'écoute.
Je n'ai pas trop fait attention à la première moitié de la course. J'ai couru comme bon me semblait sans me poser de questions. Ce n'est qu'à mi-parcours que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'avance. Je me suis dit qu'il fallait tenir, m'efforcer de conserver le même rythme, car je savais que les autres filles allaient encore produire leur effort et qu'elles allaient revenir sur moi. Je suis contente d'avoir résisté jusqu'au bout, même si tout le monde a bien vu que je commençais à manquer de force à l'approche de la ligne. Maintenant, je crois qu'il va me falloir un petit moment avant que je réalise ce qui m'arrive.
Ce titre olympique, le premier de sa carrière, fait suite à la déception de Pékin, où Miroslava Knapkova, déjà candidate au podium, avait dû se contenter d'une 5e place. Et la douloureuse expérience chinoise n'a pas été oubliée, car si en 2008, Miroslava Knapkova avait aussi mené l'essentiel de la finale olympique avant finalement d'être dépassée, cette fois, rien de cela ne s'est reproduit.
Bien sûr, j'ai entendu mon entraîneur me crier quelque chose après le premier kilomètre. J'ai alors pensé qu'il se souvenait lui aussi de la finale de Pékin, où j'avais manqué de force sur la fin. Je l'ai donc écouté et je me suis donc un peu relâchée, ou du moins je me suis efforcée de réduire un peu la cadence par rapport à la première moitié de la course pour tenir le coup jusqu'à l'arrivée.
Cette victoire est aussi le fruit du lourd travail mené dans l'ombre par l'une des sportives tchèques les plus régulières au plus haut niveau ces dernières années. Le succès de Miroslava Knapkova aurait aussi pu être celui d'un autre rameur tchèque à Londres un jour plus tôt, mais comme à Pékin il y a 4 ans, Andrzej Sinek a coupé la ligne d'arrivée de la finale du skiff masculin en 2e position, déçu puisqu'il avait lui aussi l'or pour objectif, comme sa collègue et amie Knapkova. Le tchèque reconnaissait néanmoins la supériorité du nouveau champion olympique et de son grand rival sur les plans d'eau ces dernières saisons, le néo-zélandais Mae Drysdale.
Je ne serai jamais content de ne pas être premier, mais je suis content d'avoir arraché cette médaille d'argent, car Drysdale était vraiment supérieur à tout le monde aujourd'hui, et cela s'est vu. Ce n'était pas une lutte serrée de quelques dixièmes de seconde ou de quelques dizaines de centimètres. Il gagne avec 1,5 secondes d'avance sur moi, et il y avait un bateau de différence entre nous. C'est une victoire nette méritée. Drysdale était meilleur que moi et je dois le reconnaître.
Comme Miroslava Knapkova dans la finale féminine, Andrzej Sinek avait opté pour une tactique reposant sur un départ rapide. En tête, après quelques centaines de mètres, le Tchèque n'a toutefois pas pu résister au retour de Drysdale comme il le regrettait.
Mon idée était de distancer le Néo-Zélandais pour faire la course en tête et le faire douter. Mais il m'a rattrapé au kilomètre et nous sommes ensuite longtemps restés côte à côte. À 600 mètres environ de l'arrivée, Drysdale en a remis une couche, moi aussi, mais j'ai souffert sur les 500 derniers mètres car je n'avais plus assez de force. J'ai encore essayé sur la fin de revenir, mais Drysdale a conservé sa cadence et même s'il n'a plus augmenté son avance, je n'ai moi jamais été en mesure de réduire l'écart entre nous.
À 29 ans et en attendant les prochains Jeux de Rio, André Sinek va donc vivre pendant 4 années supplémentaires avec le titre seulement honorifique de vice-champion olympique. Une médaille d'argent qu'il n'est pas le seul à avoir décroché puisque le kayakiste Vavřinec Radilek et la paire Andrea Hlaváčková et Luci Hradecká en tennis sont également montés sur la deuxième marche du podium dans leurs disciplines respectives. Mais à la différence d'André Sinek, pour qui la deuxième place est une relative déception, ce classement constitue une vraie satisfaction pour ses compatriotes. Mercredi, c'est donc d'abord Vavřinec Radilek qui a offert la première médaille de ses Jeux à la République tchèque en terminant deuxième de la finale du slalom en kayak monoplace. Longtemps détenteur du meilleur temps sans avoir concédé la moindre pénalité, le Tchèque a finalement été battu de 1 seconde et 35 dixièmes par l'Italien Daniele Molmenti. Pas de quoi pour autant décevoir Vavřinec Radilek.
Gagner, c'est toujours autre chose que de terminer deuxième. Mais au jeu, la différence entre les deux ne me semble pas aussi importante. Quel que soit son métal, une médaille olympique a toujours beaucoup de valeur. C'est pourquoi je félicite Molmenti pour sa victoire. Je ne l'envie pas, mes adversaires sont aussi des amis. Moi, je peux seulement regretter certains passages du slalom. Je sais où j'ai perdu un peu de temps et c'est ce qui explique la seconde et les quelques dixièmes qui me séparent du titre olympique. Mais c'est comme ça. Molmenti a été plus rapide que moi et il mérite sa victoire.
Après Vavřinec Radilek en canoë-kayak et André Sinek en aviron, la troisième médaille d'argent tchèque est revenue à Andrea Hlaváčková et Luci Hradecká en tennis. Comme à Wimbledon il y a un mois, la paire tchèque a été dominée en finale du tournoi olympique du double dames par Serena et Venus Williams en 2-7, 6-4, 6-4. Les sœurs américaines ont ainsi été sacrées en double pour la troisième fois de leur carrière. 3 médailles d'or auxquelles s'ajoute également un titre en simple pour chacune d'entre elles. Et à l'issue du match, bien qu'un poil désabusé, Andrea Hlaváčková reconnaissait aisément la supériorité des sœurs Williams.
Bien sûr, nous regrettons de ne pas avoir la médaille d'or autour du cou. C'est dommage que justement les sœurs Williams jouaient ici. C'est notre 5e défaite en autant de matchs contre elles. Nous n'avons pas encore trouvé la baguette magique pour les battre et nous ne sommes pas les seules. Malgré tout, nous ne pouvons pas avoir trop de regrets. Même si elles sont imbattables, nous avons bien profité de cette finale et avons fait le maximum.
Malgré cette finale perdue, Andrea Hlaváčková et Luci Hradecká ont remporté sur le gazon londonien la première médaille olympique tchèque en tennis depuis celle déjà d'argent d'Elena Suková et de Jana Novotná à Atlanta en 1996, là aussi dans le double dames. Cette performance fait également quelque peu oublier les éliminations prématurées de Tomáš Berdych et de Petra Kvitová en simple, respectivement dès le premier tour et les quarts de finale. Enfin, moins attendue et donc plus surprenante, la 5e médaille tchèque, de bronze cette fois, est revenue à Adela Sikorova, 3e de la finale du tir à la carabine à 50 mètres 3 positions, disputée samedi sur le pas de tir à la caserne de l'artillerie royale et remportée par l'américaine Jamie Lynn Gray. Quant à Katarzyna Emmons, médaillée d'argent à Pékin dans la même épreuve, elle a terminé cette fois dans les profondeurs du classement à la 32e place, mal connue du grand public et même des médias sportifs tchèques, Adela Sikorova a également fait parler d'elle involontairement cette fois lors de la cérémonie de la remise des médailles. Le speaker anglais a en effet annoncé le nom de la Polonaise Sylvia Bogatska, 4e, au moment d'appeler la tireuse tchèque à monter sur la 3e marche du podium.
Mmh.
Voilà, c'est avec cette rubrique sportive présentée par Guillaume Narguet en forme olympique que se termine cette émission. Une émission, évidemment, des sujets, pardon, que vous pouvez retrouver sur notre site internet sous forme de podcast en streaming ou également sous forme d'article. Je vous rappelle le site, c'est le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.